au fait que cette démarche...
Une interview ponctuée d'écoutes courtes et comiques pour illustrer cette drôle de pratique qui est la nôtre.
Non, non, c'était très bien, mais alors reprends du début.
93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Il est 20h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la bouquinerie.
Tant qu'il y a des pages,
des mots,
des mots.
Et puis tant que ça se rit,
même si ça se lit en diagonale, à la verticale, à la tête en bas,
la tête en bas.
Et si ça se lit aux toilettes aussi.
Ouais, aussi.
Ben, c'est la bouquinerie. Un mardi sur deux. Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous et bienvenue à la bouquinerie. Vous pénétrez à l'instant dans le repère bouquinairement bouquinarial des bouquineux de Radio Campus Paris. Les bouquineux, c'est ce drôle d'animal à mi-chemin entre le lettreux et l'étudiant qui consomme des pages à très haute dose et qui en redemande. Ce soir, nous sommes en petit comité, soirée intime à la bouquinerie en compagnie, comme toujours, de nos chroniqueurs Simon et Yacine. Salut messieurs.
Salut, alors en fait Yacine n'est pas aux toilettes mais il dessine certainement quelque part.
Donc. Oui, il doit dessiner dans un coin encore. Ouais. Et le bénévolant de la semaine, c'est Eddy, animateur de Yomi, qui nous apporte un petit bout de sa bibliothèque. Salut Eddy.
Salut.
Ton choix s'est porté sur Rhinocéros de Ionesco, donc un classique qu'on va redécouvrir ensemble ce soir. À 20h20, nous retrouverons Simon pour sa chronique adaptation. Donc rebonsoir Simon, de quoi est-ce que tu vas nous parler ?
Eh bien, alors qu'est sorti en début de mois le film des frères, enfin plutôt du frère et désormais de la sœur Wachowski, Jupiter, le destin de l'univers, je vous propose de revenir quelques années en arrière, il y a 2 ans, pour parler de l'adaptation d'un film qui est tiré d'un bouquin, et oui, c'est Cloud Atlas.
À 20h40, Martin vous embarque dans une nouvelle bibliothèque à travers sa chronique « Enlevez vos chaussures ». Ce soir, il nous emmène sous les toits dans l'appartement de la dessinatrice de presse, Louison. Et enfin, à 20h45, vous retrouverez Yacine pour le petit moment dessin de l'émission. Salut Yacine, tu nous dessines quoi ce soir, in extremis ?
Alors aujourd'hui, je vais parler d'un illustrateur qui s'appelle Jim Flora. Voilà.
D'accord.
Et il dessine pas des bites, celui-là.
Non.
Non, pas du tout. Enfin, je crois pas. J'en ai pas vu, en tout cas.
Bon, on pourra presque dire qu'on a un programme léger ce soir. À tout de suite.
Bouquiner.
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 Bouquineuse.
Bouquineuse.
Bouquinarienne.
Bouquinairement.
Bouquinant.
Bouquinant.
Bouquin.
Bouquiste.
Une terrible épidémie de rhinocérite s'abat sur le pays. Le peuple tranquille se voit pousser une, ou peut-être même 2, cornes sur le front. Leur peau devient rugueuse, leur voix rauque. C'est inexplicable. Hommes et femmes se transforment subitement en rhinocéros. Alors, c'est une bête bizarre, une bête étrange, comme va la définir Eugène Ionesco pour illustrer une autre épidémie. Au moins aussi violente, fulgurante et hallucinante, l'épidémie nazie.
Mais moi je l'ai vu, j'ai vu le rhinocéros, j'en mets ma main au feu.
Allons bon, je vous croyais une fille sérieuse.
Madame Bottard, je n'ai pas la berlue et je n'étais pas seule. Il y avait des gens autour de moi qui regardaient.
Ils regardaient sans doute autre chose, des flâneurs, des gens qui n'ont rien à faire, qui ne travaillent pas. Des oisifs.
C'était hier, c'était dimanche.
Moi, je travaille aussi le dimanche. Je n'écoute pas les curés qui vous font venir à l'église pour vous empêcher de faire votre boulot et de gagner votre pain à la sueur de votre front.
Non.
Je ne voudrais pas vous vexer, mais ce n'est pas parce que je méprise les religions qu'on peut dire que je ne les estime pas. D'abord, savez-vous ce que c'est qu'un rhinocéros ?
C'est un très gros animal, vilain. Et vous vous vantez d'avoir une pensée précise. Le rhinocéros...
mademoiselle.
Vous n'allez pas nous faire un cours sur le rhinocéros ici, nous ne sommes pas à l'école.
C'est bien dommage.
Bon, il est plus de 9h, apportez-moi la feuille de présence, tant pis pour les retardataires.
On écoutait donc à l'instant un petit extrait de l'acte 2 de Rhinocéros, mis en scène par Dominique Lamour au Théâtre du Carré Rond de Marseille en 2010. C'est donc Ionesco, dramaturge franco-roumain, qui publie cette pièce chez Gallimard en 1959 et la crée sur scène pour la première fois en 1960 au Théâtre de l'Odéon. 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc, Ionesco transforme les nazis en rhino. Rhinocéros, donc, pièce en trois actes, quatre tableaux qui interrogent l'horreur et la différence. Qui est le monstre? Qui est normal? Qui est l'autre, finalement? Eddie, c'est vraiment un plaisir de discuter de cette pièce avec toi ce soir. Pourrais-tu nous dire, dans un premier temps, pourquoi tu l'as choisi?
C'est une très très bonne question et j'ai pas forcément de réponse à cette question. Alors, on avait décidé de faire un truc ensemble sur cette émission et je m'étais dit, il faut que je parle d'un bouquin qui fait réagir, sur lequel il y a quelque chose à dire, où il y a vraiment un fond. Et j'avais réfléchi déjà, bon voilà, je vais pas mentir, hein, je suis très très fan du théâtre de l'absurde à la base, et je m'étais dit qu'il fallait une pièce, parce que je compte revenir dans cette émission à un autre moment.
Mais tu seras complètement bienvenue.
Pour bien commencer, il fallait une pièce qui faisait parler, une pièce qui était un peu une pièce maîtresse, et je pense que Rhinocéros, alors pour moi Rhinocéros, j'ai pas lu tout Ionesco, mais c'est sûrement la meilleure pièce, en tout cas que j'ai lu de Ionesco. Et ensuite, voilà, il y a ce côté... je sais pas, il y a un truc qui fait que je trouve cette pièce magistrale et en plus compréhensible, même si forcément elle est bizarre parce que c'est de l'absurde, plus compréhensible que les autres œuvres de Ionesco. Et je trouvais que du coup il y avait matière à débat, matière à discuter et matière à donner envie aux gens qui n'ont pas lu ces...
Il y a matière à bouquiner.
Il y a matière à bouquiner, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de gens, je suis sûr, qui nous écoutent et qui l'ont pas lu. Et je m'étais dit, voilà, il faut absolument découvrir cette pièce, cette œuvre de Ionesco.
On va essayer de donner envie de la lire.
Bah oui.
Tu parlais de théâtre de l'absurde. On dit donc que Ionesco représente vraiment le théâtre de l'absurde. Absurde à cause du manque de cohérence de l'intrigue, des gens qui se transforment en rhinocéros, c'est un peu absurde. Mais absurde aussi... et dénoncer le comportement de l'homme. Les hommes se comportent de manière absurde, un peu plus en règle générale.
Alors c'est une belle question. Oui, alors déjà, je pense que le théâtre de l'absurde, tu peux le définir comme tu le dis, il y a ce côté, c'est opposé au réalisme en fait. Et il y a ce côté aussi pantin interchangeable, une expression que je trouve assez cool. Et du coup, oui, effectivement, on se retrouve un peu à être tous un peu absurdes, tous un peu des rhinocéros si on veut. Et donc un peu des pantins que tu peux mettre d'un coup on est fonctionnaire et puis finalement on va faire j'allais dire prof des écoles, mais du coup prof des écoles c'est des fonctionnaires en fait, maçon, voilà. Non, mais il y a
Le fonctionnaire là, Béranger, il va sauver le monde, enfin voilà. Il veut sauver le monde. Par exemple,
il y a un côté absurde, c'est de la déraison totale. Et oui, alors peut-être que l'homme est devenu absurde. Après, je pense aussi que il y a un côté totalement opposé, c'est-à-dire que finalement on est dans une société très cadrée, très normale, très logique presque. Et alors l'homme est absurde sans vraiment l'être en fait, c'est ça qui est absurde, c'est qu'on se retrouve vraiment à être entre les deux et on sait plus trop où est-ce qu'on en est finalement.
On est au méta-absurde, c'est ça. On va oser sortir ce mot ou pas?
Allez, c'est bon, il est 20h09, on a déjà sorti méta-absurde, on va passer une super heure, moi, je te le dis.
Et le langage, on parle de méta-absurdité, le langage, lui, il tient une place très très importante dans cette pièce. On a tout le temps des répétitions « Oh, un rhinocéros! Oh, un rhinocéros !» Il y a un jeu là-dessus, mais un jeu sur la langue et ce qu'on en pense. Les gens n'arrêtent pas de se demander ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que t'en penses, et ils ont même du mal à mettre le doigt sur ce qu'ils pensent. Et c'est là qu'un drôle de personnage vient mettre un peu d'ordre ou de désordre dans tout ça, un logicien.
Mais alors, qui est le logicien? Qu'est-ce que fout le logicien? Est-ce que tu peux nous expliquer?
C'est au tout début, dans le premier acte, en fait, où t'as donc, le vieux monsieur qui arrive avec le logicien, qui le présente comme son ami, et qui a décidé, qui est très en retrait. À un moment, il y a une partie où il est en retrait, il observe ce qui se passe, et c'est complètement bizarre. On voit des rhinocéros, et tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui arrive?
Il regarde les gens paniquer.
Et du coup, il regarde les gens paniquer, puis il arrive avec sa logique comme ça, il te fait des syllogismes dans lesquels il explique que finalement Socrate est un chat. Donc d'une logique complètement absurde, mais du coup je trouve que ce personnage, il est d'un intérêt immense parce qu'il apporte un côté déjà vachement très très drôle à la pièce, et il essaye d'expliquer un truc qui est complètement inexplicable. Alors, les gens se transforment en rhinocéros, quoi. Enfin, au moment où il intervient, on n'a pas encore compris que les gens se transforment en rhinocéros, mais t'as quand même un rhinocéros qui vient écraser un chat en plein centre-ville.
Tout le monde se demande ce que le rhinocéros fait là, et lui il arrive pour répondre à la question de combien de cornes il avait, et tout le monde essaye de l'expliquer que c'est pas la question, mais si, c'est la question, et non, ça l'est pas, voilà, mais après tout, pourquoi pas.
J'allais venir, donc comme tu, voilà, c'est ça, c'est du coup il apporte une il essaye d'expliquer, et puis il apporte une, donc d'abord t'as cette explication, puis il apporte une logique qui est totalement absurde, et puis finalement il te dit, mais en fait la question c'est combien de cornes il avait, mais il en a peut-être une, peut-être deux, mais en fait c'est peut-être un rhinocéros qui en avait deux qui a perdu une corne, c'est peut-être un rhinocéros qui en avait deux, rhinocéros qui en avait deux qu'on en perdu une, ça sert pas à manger un truc où finalement il y a plus du tout d'explication plausible, et la question après part sur est-ce que le rhinocéros est africain ou asiatique, et on se retrouve dans un cercle complètement hallucinant, c'est-à-dire d'où on est parti et pourquoi on arrive là. Ça c'est la force de cette œuvre, et c'est la force, je trouve, de pas mal d'œuvres de Ionesco et de l'absurde aussi, globalement, je trouve.
Et alors, il a combien de cornes, le rhinocéros?
Eh ben, c'est une bonne question, parce que quand tu pousses la logique, du coup, dans le bouquin, d'abord, il te dit qu'il y en a une, et puis après, donc, t'as Jean, je crois que Jean, il dit que le rhinocéros en avait qu'une, et que c'est comme, du coup, c'est un rhinocéros. Alors, je vais sûrement me tromper, hein, c'est un peu comme, tu sais, dans la Cité de la Peur, manger un chewing-gum et mille, c'est-à-dire, on peut tromper mille hommes mille fois, enfin, voilà, c'est pareil, je vais sûrement me tromper. Mais donc, du coup, Jean, il dit que le rhinocéros asiatique, il en a qu'une, et que, du coup, c'est un rhinocéros asiatique. Et puis Béranger dit, non, c'était en fait un rhinocéros africain, mais il en a qu'une quand même, mais enfin... Bon,
les rhinocéros bicornus.
Donc on se retrouve à se demander combien de cornes a le rhinocéros et de quelle région il est. Et du coup, plus on va loin dans le truc, et après dans l'acte 2, ils repartent là-dessus, ils partent sur des histoires de racisme, de Chinois qui sont jaunes, et puis alors ça part en cacahuète. Donc on peut se dire, finalement, le rhinocéros, il en a une, deux, trois, six cornes, c'est un peu à toi de décider combien tu lui envoies. Et combien tu veux qu'il en ait de cornes, puisque on est, de toute façon, tout le monde se transforme en rhinocéros, alors pourquoi pas lui en mettre 12 à la limite des cornes?
Le logicien, j'ai trouvé un petit extrait qui dit: voyez-vous, le débat portait tout d'abord sur un problème dont vous vous êtes malgré vous écarté. Vous vous demandiez au départ si le rhinocéros qui vient de passer est bien celui de tout à l'heure ou si c'est un autre. Et c'est à cela qu'il faut répondre, et à partir de là... il va complètement donc embrouiller.
Et là, c'est le mec, il te propose une réponse qui t'embrouille encore plus. Et tu sais plus du tout où t'en es. T'es en train de lire le truc et t'es perdu. T'es là, mais le logicien, normalement, tu vois, tu réponds par les maths. Quand tu réponds par les maths et par la logique, c'est pour t'aider à comprendre.
Ouais, c'est pour avancer.
C'est vraiment pour avancer, quoi. Et là, c'est un recul là, total. C'est-à-dire que tu comprends plus rien, quoi. T'es totalement perdu. Et en même temps, t'es dans le truc, t'es passionné. Tu te dis, il va se passer quelque chose. Et tout le long, en plus, t'as un côté humoristique qui est prenant, qui est génial, quoi. C'est exceptionnel. C'est top.
Mais au-delà de leur nationalité, les rhinocéros dénoncent par leur étrangeté et leur violence, leur monstruosité, la vague de nazification qui a déferlé sur le XXe siècle. On écoute tout de suite un extrait d'une interview auprès d'Eugène Ionesco, donc, et c'est une archive de l'INA en 1972.
Et comme je ne pouvais plus m'entendre du tout avec ces gens-là qui parlaient un autre langage, j'ai eu l'impression de me trouver parmi des monstres. À tel point que je finis par me dire, mais si tout le monde est nazi, et moi pas, c'est moi le monstre peut-être.
Il y a cette question de l'altérité qui sous-tend la pièce, de l'autre, l'autre qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et qui nous fait peur. Et puis en fait, Ionesco, il se demande si l'autre, c'est pas lui, c'est moi. Le monstre, finit-il par dire. Alors, est-ce que tu penses qu'à un moment de la pièce, si on peut dire que la projection de Ionesco dans la pièce, c'est Béranger, est-ce que Béranger est le monstre, finalement?
Oui, parce qu'il est différent et que finalement, c'est le seul à pas se transformer en rhinocéros. Donc, ça fait de lui un monstre puisque tout le monde est devenu un rhinocéros.
Tout blanc, tout flasque.
Voilà,
sans
c'est
cornes,
ça. Il a même pas de cornes et de peau renforcée, je veux dire. C'est juste un. Et donc, ça en fait un monstre
un
parce
grenaze.
Qu'il est différent. C'est net un grenaze. Comme du coup, comme par exemple, les résistants à l'époque en France pouvaient être du coup différents des nazis. Parce que, bah, tu vois, ils étaient en opposition avec ce qu'était la norme. Hein. On veut faire croire que la résistance était tous des Français. Non, la norme, c'était l'occupation. Et du coup, il y a ce côté ouais, monstrueux, effectivement, qu'on retrouve chez Béranger dans la pièce, qu'on retrouve sûrement aussi chez Ionesco, parce que ce mec-là, il était, parce qu'il est mort en 94, il était différent des autres. Je veux dire, rien qu'en faisant du théâtre de l'absurde, ils sont pas nombreux à en avoir fait des pièces aussi. Je t'en donnerai trois, quoi. Il y a Jarry, Beckett et Ionesco. Il y en a sûrement d'autres. Il y en a même d'autres, mais c'est vraiment les trois.
Les figures majeures.
Voilà, les trois plus grands. Et ça fait deux des monstres, en fait. C'est des freaks. Tu sais, t'avais les monstrueuses parades dans les années 30 où tu avais des hommes bossus, des femmes à barbe et tous ces monstres que tu retrouves dans les pièces de Ionesco, en fait. Et c'est Béranger, c'est ça. C'est un monstre, en fait. C'est un mec différent.
En tout cas, sachez bien que si ces oiseaux continuent leur refus, je ne réponds plus de moi.
Le ménage n'est pas fait.
Ils se croient tout permis ici.
C'est quand même formidable.
Et si j'allais en faire autant chez eux?
Vous êtes là comme des mottes de terre.
Je vais aller, moi, chanter toute la journée sous leur nid.
Et les inviter.
Je vais aller jouer avec leurs petits.
Les chats, ils s'en font pas, bien sûr.
Oh là là, le scandale.
Faut encore que je me tape tout ça.
C'est comme la menthe.
Avec ma sciatique et ma sinusite.
On ne sent qu'elle ici.
Et la bouffe, et la vaisselle.
Je trouve que quand même y a de l'abus.
C'est quand même pas difficile.
On n'est plus chez soi.
La dernière fois c'était pareil.
J'aime bien les plantes, mais y a une limite.
D'ailleurs, Annette l'avait remarqué.
Et cette rose qui se permet de pousser en plein milieu de la cour.
Elle est discrète, mais faut pas pousser.
Mais je vous en prie, ne vous gênez pas.
Même pas un petit baiser.
Elle est mignonne, d'accord, mais elle compte un peu trop là-dessus.
Et les chats, y'en a pas un qui se dérangerait pour dire bonjour.
Et pendant ce temps-là, c'est moi qui me tape la vaisselle et la lessive.
Faut encore que j'y aille.
Et j'ai jamais une minute à moi.
Avec 100 bornes dans les reins et les courses chez Kodak.
Je ne peux même pas prendre un bain tranquille. Je ne peux même pas regarder un film.
Et la bonne femme qui croit toujours que je sors de l'asile à cause d'une plaisanterie stupide.
Pierrette, au moins, elle me laisse tranquille.
Oh, c'est marrant.
J'aime beaucoup Pierrette.
Oh, j'aime ça.
C'est une femme bien.
N'empêche que j'aimerais bien voir la gueule que vous feriez.
Elle ne veut pas que je sois autrement que je suis et ça ne l'empêche pas de m'aider à changer puisque c'est ce que je veux.
C'est encore moi qui devrais assurer le toubib en pleine nuit et les petits déjeuners à 6h du soir.
Je ne sais pas comment elle fait, Pierrette.
Je connais par cœur.
Elle n'a aucune vanité et elle n'en est pas plus fière pour ça.
Et vous vous êtes encore trompée dans les gouttes.
Mais elle passe quand même pour une conne comme tout le monde.
C'est pas 15 qu'il m'en faut de ce truc-là, c'est 25.
D'ailleurs, où elle est?
Vous n'en avez rien à foutre.
Vous l'avez encore envoyée chez Kodak.
C'est comme la fois où mon père est venu dîner.
Vous savez pourtant comment ça finit, non?
Vous l'aviez tellement saoulé qu'il ne pouvait plus descendre l'escalier.
On la retrouve au bistrot, complètement perdue, en train de téléphoner à sa sœur.
Quand je suis arrivé, il pleurait sur les marches.
Sa sœur, enfin, j'aime mieux rien dire, mais c'est pas sérieux.
Je n'avais pas pu garer la voiture.
D'ailleurs, si jamais elle remet les pieds ici, je m'en vais.
Parce que vous aviez sorti votre putain de matelas devant la porte.
Je retourne au Grand-Duché de Luxembourg.
J'ai dû aller coucher au Hilton avec lui.
Là, tu es tranquille.
30 sacs la chambre à mon âge.
3 rues, des banques, des hôtels, des striptease, pas d'histoire.
Et tous ces rockers qui se faisaient monter du champagne à 3h du matin.
Tu as une petite mansarde, un resto avec des salades composées, tu as la gare à côté, c'est clair.
Vous voulez ma peau ou quoi?
Et puis la forêt, elle n'est pas loin, une forêt pas mal du tout.
Et le lendemain, L'appendicite de Gérard, comme par hasard.
Moi, j'avais un buisson là-dedans. Oh là là, ce buisson.
200 sacs d'hosto plus 3 contredanses.
Vous pouvez pas savoir. D'ailleurs, vous vous en foutez. Je vous parle, vous n'écoutez même pas.
Pour une fois que mon père venait dîner...
Vous voudriez que je dise exactement ce que vous vous dites et c'est tout.
Et vous savez très bien ce que ça représentait pour lui.
Vous voudriez que tout disparaisse, sauf vous.
Après ça, j'avais plus qu'à signer chez Mazda et fermer ma gueule.
Et d'ailleurs, c'est en train. Vous êtes les plus forts puisque vous êtes les plus tenaces et les plus sûrs de vous.
J'ai failli me faire violer par toutes ces hystériques.
Vous n'en avez pas assez.
La Brigitte Fontaine qui me susurre des mots à l'oreille depuis quelques minutes. C'est un morceau qu'Eddie a décidé de nous faire écouter. Tu peux raconter.
Plus précisément, c'est Brigitte Fontaine et Areski Belkacem qui est son compagnon. Je ne sais pas s'ils sont mariés depuis du coup plusieurs années, puisque ce morceau est de 69, si je ne m'abuse. Il s'appelle Le Ménage et était sur l'album Les Églantines sont formidables. Album qui n'a pas été réédité parce que Brigitte Fontaine le renie totalement. Et pourtant, album exceptionnel comme tous les autres. Et du coup, j'ai choisi ce morceau parce que Brigitte Fontaine m'a amené à l'absurde. En fait, c'est un peu un truc personnel, tu vois. Parce qu'elle écrit des textes absolument absurdes, irréels et en même temps très beaux. Et elle a pas fait que de la musique, que de la chanson. Elle a écrit pas mal de choses. Elle a fait du théâtre aussi énormément avant de commencer. En fait, elle voulait faire du théâtre avant de faire de la musique. Et du coup, dans ce morceau, on entend plusieurs passages qu'on retrouve après dans une pièce qu'elle a jouée et qu'elle a sortie en livre qui s'appelle L'Inconciliabule. Déjà, c'est un mot valise qui n'a absolument aucun sens. C'est entre inconciliable et la bulle, tu sais, la bulle papale. Et voilà, ça, moi, c'est comme ça que je suis arrivé à l'absurde. Et je pense que du coup, une personne qui aime l'absurde et qui a lu Beckett, Jarry et Ionesco doit maintenant lire Brigitte Fontaine, puisque voilà, elle sort encore des livres, qu'elle est encore vivante et que et d'ailleurs elle se porte plutôt bien pour son âge. Et je voulais me servir, si tu veux, de ça pour aller plus loin et dire aux gens, allez-y, écoutez du Brigitte Fontaine et lisez, c'est pièce de théâtre.
Mais alors on le dit, écoutez Brigitte Fontaine en lisant Ionesco.
Toi tu dis qu'il faut écouter la Brigitte Fontaine de maintenant ou celle des années 70 parce que c'est pas le même niveau quand même.
C'est pas du tout le même niveau, je pense qu'il faut écouter les deux de façon différente parce que c'est vrai que si tu écoutes ça aujourd'hui elle a plus du tout de voix quoi.
Moi je suis très très critique sur Brigitte Fontaine maintenant, je l'ai vu en concert récemment, j'ai écouté son dernier disque, je trouve que ça me fait plus le même effet alors que avec Areski dans les années de la fin des années 60 jusqu'au à la fin des années 70, je trouve ça fantastique, mais...
Ouais, après, tu vois, c'est deux trucs différents. Je suis d'accord que le dernier album, il est pas... Voilà, je veux dire, elle fait encore de la musique, parce qu'elle peut, je pense qu'elle peut pas vivre sans, elle est accro. Ces deux, trois derniers albums sont pas forcément exceptionnels. Après, je pense que la période des années 90-2000 est quand même vachement intéressante, avec des albums comme Genre Humain, Kéké Land, Saint-Louis-en-Lille, qui sont quand même très bons, parce qu'elle a su s'entourer, parce que Areski fait toujours la musique, et que grâce à lui, elle a toujours une musique exceptionnelle derrière. Et pour revenir sur le côté absurde, ces textes sont toujours très beaux, je trouve. Après, c'est sûr, sur scène, tu la vois, c'est un peu un débris, quoi.
On te retrouve dans un petit instant.
Mais je voulais pas dire du mal de Brigitte Fontaine.
Mais non, personne ne veut de mal à Brigitte Fontaine. On va tout de suite retrouver la chronique de Simon.
Et c'est la bouquinerie.
Simon, tu nous chroniques ce soir un roman dont peu de gens savent qu'il existe apparemment.
Oui, alors effectivement, la transition, ça va être, on a quitté l'absurde et on va essayer de renouer avec une quête de sens. Alors, il arrive très souvent qu'un film soit une excellente adaptation, mais comme tu l'as dit, on ignore qu'il y a un bouquin à l'origine, parce que le bouquin est complètement inconnu à la sortie du film, et d'ailleurs, il le reste souvent après, retournant dans l'indifférence totale du public, qui a tendance à confiner un peu trop rapidement de véritables bijoux littéraires dans la case du, je cite, « Ah mais tu sais, le bouquin dont il y a eu le film qui a été adapté du livre là ». Voilà. Bon, c'était votre cas peut-être. C'est donc pour rendre justice à ces livres éclipsés par leur adaptation que sera consacrée cette chronique à Cloud Atlas. Donc, je sais pas si autour de la table, il y en a qui l'ont lu ou qui ont vu le film. Il me semble que Yacine...
Moi, j'ai vu le film.
J'ai pas osé.
Ni l'un ni l'autre. Anna ?
Non, j'avoue.
Bon, bah c'est bien, j'aurais pas travaillé pour rien. Donc, Cloud Atlas, ou La cartographie des nuages, comme l'a proposé la traduction française de 2007, est le troisième roman d'un auteur britannique assez jeune, qui s'appelle David Mitchell. Mitchell, par contre, il a été malgré tout récompensé par plusieurs prix outre-Manche, mais il est malheureusement passé complètement inaperçu chez nous. Alors, comme il me semble assez difficile de le résumer, je vais me contenter de décrire Cloud Atlas de manière un peu schématique, et je m'excuse par avance. Alors, l'ouvrage...
Non, mais t'es pardonné.
Oui, je sais, toujours. L'ouvrage est composé donc de 6 histoires qui s'enchaînent selon une logique chrono-historique, je vais expliquer, avec des modes de narration, de focalisation et de registres différents. Alors d'abord, on a le journal de la traversée d'Adam Ewing, en fait c'est un récit de voyage qui prend place dans le Pacifique Sud dans les années 1850. Ensuite, on a les lettres de Zedelgheim.
Numéro 2.
Ça. Numéro 2, exactement. En fait, c'est la correspondance d'un jeune compositeur qui s'appelle Robert Frobisher dans les années 30, et en fait, qui écrit à son amant son travail d'assistant d'un maître, d'un compositeur vieillissant en Belgique. Ensuite, numéro 3.
C'est les numéros,
Demi-vie, la première enquête de Louise Arrêt. Alors là, c'est tout à fait le roman policier des années 70 qui met en scène une jeune journaliste en prise avec un projet très dangereux de centrale nucléaire sur la côte ouest. Numéro 4, l'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish. Alors, ça, c'est l'épisode le plus marrant. C'est une véritable délire biographique. C'est un éditeur anglais qui se retrouve complètement embarqué malgré lui et enfermé dans une maison de retraite. Et ça se passe au début des années 2000 et c'est absolument génial. Numéro 5, alors ça s'appelle L'oraison de Somni 451. 451 qui fait référence à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc vous l'aurez compris, c'est le roman de SF de l'ouvrage. Donc en fait, c'est sous forme d'interrogatoire d'un clone coréen, clone à tout faire, hein, et qui est prise dans une rébellion contre un capitalisme industriel. Et on est au 22e siècle. Et enfin, histoire numéro 6 s'appelle La croisée de Susha puis tout ce qu'a suivi. C'est le récit d'un jeune homme tourmenté par la culpabilité dans un futur post-apocalyptique. Donc, 6 histoires. Mais alors, pour corser le tout, Mitchell complexifie son roman et il coupe les 5 premières histoires à leur moitié. Et il redistribue les moitiés de ces histoires selon un axe symétrique qui est formé par la 6e. Donc en fait, vous avez les débuts des 5 premières histoires, puis l'histoire complexe de la croisée de Slusha, puis tout ce qui a suivi, et ensuite, de l'ordre décroissant comme si c'était un miroir, les fins des histoires 1 à 5, mais dans l'ordre 5 à 1.
C'est pas encore un peu un mec fou, ça ?
Si, mais, outre l'intérêt de chaque histoire, les styles d'écriture relatifs donc à chaque période littéraire ont été vraiment respectés. Donc on commence avec la langue très soignée du 19e, on a le raffinement ou l'épure parfois très abstraite de l'entre-deux-guerres, le rythme trépidant du roman noir, la trivialité du roman contemporain, les néologismes de la SF, et puis l'espèce de langage fait de barbarisme et d'élision d'une hypothétique langue future qui est un peu difficile à comprendre au début parce qu'on a l'impression que c'est une langue des cités, mais encore plus moderne. Bref, chaque histoire, chaque personnage, on a 4 hommes, 2 femmes, sont liés aux autres par plusieurs éléments. D'abord, la présence d'une tache de naissance en forme de comète et la référence au récit qu'il précède dans la lecture. On a les lettres qu'on retrouve dans le récit ultérieur, un manuscrit, des vidéos, voire des personnages récurrents qu'on retrouve vieillis d'une histoire à l'autre. Comme une sorte de long fil d'Ariane, Mitchell tisse avec Cloud Atlas une fable sur la réincarnation d'êtres en révolte contre la société de leur époque. Bon, voilà, on rejoint un peu Béranger d'une certaine manière. On parle de cannibalisme, d'esclavagisme, de racisme, d'homosexualité aussi. Et il suggère comme permanence l'importance des liens que les hommes tissent entre eux, comme l'amour évidemment, ou l'art, et l'art n'est certainement pas le moindre d'entre eux. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il est certainement beaucoup moins pessimiste que Ionesco en son temps. D'ailleurs, le livre se veut presque l'illustration de cette théorie, puisqu'on a de nombreuses références à l'art de manière générale, à l'écriture évidemment, mais aussi à la musique, très importante, puisque le titre du roman est celui du sextet composé par Robert Frobisher dans une deuxième histoire, donc Cloud Atlas. Sextet, me direz-vous ? Sextet, mais comme 6 histoires ! C'est compris ?
Oui, je ressortirai ce mot en dîner mondain, je l'ai écrit.
C'est ou super. Sextuor, c'est bien.
Sextuor, ça en jette encore
plus. La soirée libertine, ça peut être un peu ambigu par contre. Hein.
Non, je fais pas ça tout le temps. Qu'en est-il de l'adaptation, Simon ?
Alors, reprends-toi. C'est un bouquin a priori adaptable des propos même de son auteur, comme pouvait l'être Watchmen dans son genre. Cloud Atlas a représenté un véritable défi pour Andy et la désormais Lana Wachowski, dont c'était le premier film depuis Speed Racer en 2008, et l'amant, oui, il y a un Allemand dans cette histoire, Tom Twigg. Je me trompe toujours, Tiquer et pas Tweaker comme je le prononce tout le temps. Auteur de l'excellent Cours l'eau la cour en 98, alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui reposait un peu sur le principe d'un jour sans fin, donc on avait une histoire courte et qui se répétait à l'infini avec différentes variations. C'est absolument génial si vous avez l'occasion de le voir. Alors aussi, comme toute entreprise d'adaptation, les choix ont été déterminants pour celui-ci, et il faut le dire, ils ont été carrément audacieux. Tout d'abord, les réalisateurs se sont répartis le travail, les Wachowski ont signé trois premières histoires, donc histoire 1, 5 et 6, et Tiquer a réalisé les histoires 2, 3 et 4. Mais, et là, c'est où l'enjeu était élevé, afin d'éviter un casting monstre, ils ont décidé de prendre les mêmes acteurs pour chaque histoire, un choix assez cohérent compte tenu des références à la réincarnation, même si les rôles n'ont pas été distribués en fonction de leur importance d'une histoire à une autre. Par exemple, Tom Hanks, qui a 50 ans à peu près, il me semble, comme acteur, ou il approche pas loin de ses 60, est bien, bien éloigné du presque trentenaire du livre qui s'appelle Zachary dans la sixième histoire. Et pourtant, il interprète de manière tout à fait crédible, et dans d'autres histoires, il joue des personnages complètement salopards. Et il en même carrément secondaire. On a Halle Berry également, qui interprète Louisa Ray dans la troisième histoire, donc la journaliste dans le roman policier. Et on la retrouve par exemple dans des rôles beaucoup plus mineurs, voire en simple figurante ailleurs. Le reste du casting est quand même notable. On retrouve Hugo Weaving, donc, qui joue toujours aussi bien les salauds de service. On a Ben Whishaw, qui est assez discret au cinéma, qu'on a vu dans, dans les derniers jazz-bands. Il joue au Q maintenant. Il joue le jeune compositeur Robert Frobisher. L'actrice coréenne Bae Doona, qu'on voit pas mal dans les films de Bong Joon-ho notamment. Et encore Hugh Grant ou Susan Sarandon, ici ou là, mais qui jouent vraiment des rôles secondaires. D'ailleurs, l'un des plaisirs du film est justement de s'amuser à retrouver les caméos des uns et des autres, qui sont parfois grimés au point d'en être complètement méconnaissables, surtout quand ils changent de couleur de peau ou de sexe.
Est-ce qu'ils deviennent bleus ?
Non, mais ça, je pense que c'est dans la suite.
Bon, d'accord. Et un mot pour la fin ?
Alors, justement, est-ce que c'est pareil ou pas ? En tout cas, c'est aussi bien. L'une des réussites du film est de pouvoir combiner les histoires de manière vraiment harmonieuse et fluide en transposant les particularités littéraires de chaque récit dans le genre filmique correspondant. On a une structure en flashback, flash-forward, qui joue habilement sur les effets d'écho d'une histoire à une autre, commençant par l'exposition générale de chaque intrigue, puis suivant l'ordre chronologique des histoires en intégrant par touche des éléments des autres récits, d'abord de manière brute, puis de plus en plus subtile. Alors forcément, chaque histoire perd un peu de son épaisseur dans un film qui dure quand même près de 3 heures. On pourrait même tatillonner sur des détails, des personnages secondaires qui ont fusionné, des raccourcis faciles, des intrigues allégées. Par exemple, l'histoire de SF s'éloigne vraiment du récit et les Wachowski se font plaisir pour un délire un peu à la Matrix. On pourrait également critiquer les maquillages asiatiques pas toujours convaincants dans la version coréenne, mais le film est quand même brillamment mené, notamment au regard du défi d'origine, et le lien est assuré par une super partition musicale, on entend un extrait en ce moment, qui est co-signée par Tiquer lui-même et qui a été composée pendant le tournage afin d'inspirer le tournage et les acteurs. Bref, en payant une place de cinéma ou en achetant un DVD, vous aurez vraiment le plaisir de voir 6 films en un, et si vous avez l'occasion de lire le livre, franchement, vous ne perdrez pas votre temps, vous aurez 6 livres pour un.
C'était les bons plans rapport qualité-prix de Simon.
Voilà. Et si on lit le livre en regardant le film ?
Non, parce que c'est très différent et tu risques d'avoir mal au crâne.
Bouquinerie.
Bouquiner.
Bouquiner.
C'est la bouquinerie.
Le rhinocéros, c'est un animal extrêmement bizarre et qui n'a rien d'humain. Il est absolument, son langage, comme on dit maintenant, nous est complètement incompréhensible, n'est-ce pas ? Et quelle est sa psychologie? On connaît la psychologie des chiens, des chats, mais le rhinocéros est quelque chose qui nous est tout à fait étranger et étrange.
On entend donc encore cette interview de Lina en 72 de UNESCO, où il nous explique que le rhinocéros est une bête sacrément étrange. C'est vrai que rhinocéros avec des chats, ça aurait pas trop pu être possible. Ça, c'était la question du soir.
Le chat, il est tellement mignon. En plus, t'as envie de lui faire des bisous. Puis tu sais, un chat qui écrase un rhinocéros, c'est pas plausible, quoi. Alors que c'est un rhinocéros qui écrase un chat dans la pièce.
Bah oui. Mais Socrate est un chat, donc finalement.
Tout à fait. Mais les rhinocéros sont quatre pattes. Le chat a quatre pattes, donc le rhinocéros est un chat finalement.
Et le chat et Socrate, donc les rhinocéros sont
Socrate.
on y arrive. Donc, tout le monde va se transformer petit à petit en rhinocéros et c'est Béranger qui va résister. Tout à l'heure, hors antenne, on a eu un débat et je voudrais le continuer ici. C'est Daisy, l'amoureuse de Béranger, qui va le soigner. Il devient complètement fou, comme il y a des rhinocéros partout et qu'il ne veut absolument pas en être. Et Daisy, elle, va l'aider et finalement, après une dispute, partir. Elle descend de la cage d'escalier et elle rejoint les rhinocéros. Mais est-ce qu'elle en devient une ? Moi, je dis non. Eddie ?
Mais moi, je dis oui, quoi. Je dis oui parce qu'il ne reste plus que Béranger. Finalement, c'est le seul à avoir l'envie, mais pas le pouvoir de devenir un rhinocéros, en fait. Et malgré ce côté naïf, petite blondasse... Daisy, je pense que
elle est gentille.
Elle est gentille, mais tu vois justement, elle est
toujours
naïve.
Les blondes.
Mais non, mais elle est naïve, donc forcément, elle se laisse prendre au jeu et je pense qu'elle devient une rhinocéros. Après,
oui, c'est... ce sentiment quand même que leur amour, ils ont rien à faire ensemble. La seule chose qui les liait, c'était le fait que ni l'un ni l'autre n'avait la nature à devenir un rhinocéros. Parce que finalement, Béranger, quoi qu'il fasse, il sera jamais un rhinocéros, même s'il en a envie, parce que c'est pas dans sa nature, parce que c'est pas dans la nature de Ionesco d'être un nazi. Et pour moi, Daisy non plus, c'est pas dans sa nature, elle descend se faire piétiner. Je vois un truc beaucoup plus tragique, en fait.
Ouais, voilà, mais en même temps, donc c'est ça. De toute façon, soit elle se fait piétiner, soit elle devient un rhinocéros, parce qu'on est dans une pièce de Ionesco et ça finit pas bien. Et puis en plus, on est dans une pièce où finalement tout le monde est transformé en rhinocéros, il n'y a pas trop d'échappatoire. Donc j'ai presque envie de croire qu'elle devient une rhinocéros, un rhinocéros plutôt qu'elle se fait écraser, c'est un peu plus joli comme fin.
Simon, t'as une question ?
Oui, effectivement, en fait, j'étais en train de penser que le thème de rhinocéros même, s'il a été écrit pour faire une critique, en tout cas du totalitarisme aujourd'hui, on peut le lire comme ça, mais en tout cas de la part d'UNESCO, clairement comme une critique du nazisme, aujourd'hui on pourrait avoir une autre lecture, et le rhinocéros pourrait être vraiment rapproché de toute la mode de la zombification et du zombie. Quelque part, le zombie aujourd'hui a un peu supplanté cette image du monstre rhinocérosien ou périssodactyle.
Oui, dans les films périssodactyles.
Mais là, dans un autre sens, finalement, le totalitarisme, maintenant, c'est un totalitarisme de consommation, parce que beaucoup d'analyses rapprochent le zombie du consommateur abruti. D'ailleurs, dans le deuxième film de Romero, The Day of the Dead, il s'y me semble...
Zombie, hein.
Ouais, zombie. Enfin, ça, c'est la traduction française. Effectivement, ça se passe dans un centre commercial, et là, la critique est évidente. Mais justement, je pense que ça reste d'actualité de ce point de vue-là. Alors peut-être qu'il y aura une réécriture de rhinocéros avec des zombies cette fois. Ouais, des rhinocéros zombies pour une énième série B.
On peut travailler tous ensemble à une mise en scène de rhinocéros. Non, les acteurs seraient les animateurs de campus et on se transforme en
zombies. Je suis d'accord avec toi.
Et là, Daisy serait bouffée par les zombies. Ça serait encore plus tragique que se piétiner par des rhinocéros.
En même temps, c'est un truc qui apparaît à la même époque parce que le premier film de Romero, déjà, c'est une critique de la société de consommation. Mmh. Je veux dire, à la fin, tu vois, t'as un noir qui s'en sort et finalement le but. T'es là, genre. Donc, finalement, c'est deux choses qui sont parallèles et qui apparaissent un peu en même temps. Le zombie, c'est à la fin des années 60. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, t'avais le choix, quoi. C'était soit on avait des rhinocéros à la mode aujourd'hui, soit c'était des zombies, c'est finalement les zombies. Et on est tous devenus des zombies ou des rhinocéros et ou. Et je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, tout ça pour dire ça, en fait.
Donc, merci. Les rhinocéros du 21e siècle, pour Simon, c'est les zombies aliénés par la surconsommation. Eddie, t'as peut-être une autre vision des rhinocéros d'aujourd'hui ?
Eh bien, je pense qu'on est tous des rhinocéros, en fait. C'est triste, mais on a tous suivi
Charlie
un truc.
Charlie est un rhinocéros.
Non, mais je veux dire, on est tous dans des rhinocéros. Enfin, peut-être pas, hein. J'espère que vous qui m'écoutez, vous êtes complètement outrés par ce que je dis, et c'est très bien d'ailleurs.
Si j'écoute Radio Campus Paris, ce ne sont pas des rhinocéros.
Mais voilà. Ouais, pourquoi ?
On est une radio anti-rhinocéros.
Mais je pense que voilà, il y a aujourd'hui, on est tous en train de suivre un mouvement, de suivre quelque chose, on est dans le paraître à fond et du coup regarde, prends le métro et regarde autour de toi, tout le monde se ressemble quoi, donc il y a ce côté déjà. Après au niveau des idées, effectivement peut-être pas des rhinocéros, on n'est pas tous devenus des fachos bien heureusement, même si
les sondages en ce moment laisseraient croire un
ouais,
peu contre
mais... oui après voilà, si tu suis les sondages t'es un rhinocéros, désolé, mais bon je veux dire, TLS Sofres, voilà quoi. Enfin, bon.
Moi j'avais une interprétation de un petit peu plus axée du rhinocéros, parce que je me suis demandé, et si les rhinocéros c'était les transhumanistes quelque part? Et oui,
zombies
si tu veux, mais ça c'est une foule encore silencieuse aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, dont le nombre grandit chaque jour. C'est une idée, un langage et une vision de voir le monde qui s'immiscent tranquillement dans les populations. Dans nos poches, avec les smartphones, dans nos corps avec les implants et bientôt à la place de nos corps. Chaque individu a sa petite résistance, puis bascule. Allez, ok, le smartphone, ah ok, bon, des Google Glass, et puis pourquoi pas les mondes connectés. Et on a un troupeau bruyant, un troupeau augmenté, transhumain, qui dégomme tout sur son passage. Les nouveaux Bérangers sont les technophobes, ou du moins les technorésistants, les anti-transhumains. Et là, on retombe sur nos pieds. Les humanistes, tout comme dans la pièce de Ionesco, Béranger est profondément humain et humaniste. Et les humains s'oublient pour le rhinocéros dans cette pièce. Aujourd'hui, les humains s'oublient pour la machine.
Et si c'est eux qui ont raison ? Un homme n'est pas laid. Un homme n'est pas laid. Quelle drôle de chose. À quoi je ressemble alors? À quoi? Qui sont-ils tous ces gens-là? Monsieur Papillon ou Jean ou Botard ou Dudard et moi? C'est moi. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas beau. Ce sont eux qui sont beaux. Ah, comme je voudrais être comme eux. Je n'ai pas de cornes, hélas. Que c'est laid, un front plat. Il m'en faudrait une ou deux pour rehausser mes traits tombants. Et je n'aurais plus honte. Je pourrais aller tous les retrouver. Mais ça ne pousse pas. Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses? J'ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc. Comme je voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d'un vert sombre, une nudité décente, sans poils, comme la leur. Leurs chants ont du charme, un peu âpre, mais un charme certain. Comme j'ai mauvaise conscience. Comme j'ai mauvaise conscience. Jamais je ne deviendrai rhinocéros. Jamais, jamais.
Bouquinerie. Bouquiner.
Bouquinaire. Bouquinal.
Bouquinaire. Bouquinal. Bouquineux. Bouquineuse.
Bouquineux.
Bouquinarial. Bouquinairement. Bouquinant.
Bouquin.
De retour sur le plateau de la bouquinerie en compagnie d'Eddy et en compagnie spirituelle de Jeanne Ionesco, puisqu'on parle de lui et de sa pièce Rhinocéros depuis le début de l'émission. On entendait à l'instant un extrait du monologue final de Béranger dans une mise en scène d'Emmanuel Demarcy Motta avec Serge Maggiani dans le rôle de Béranger en 2006. Du coup, les rhinocéros transhumains, vous en pensez quoi?
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, alors, en fait, maintenant que j'y pense, si tu regardes un peu ce qui se passe aujourd'hui, les rhinocéros sont c'est tous les mecs qui ont Twitter et Facebook, en fait. Donc c'est nous. Enfin, c'est tous les gens
donc,
qui.
Donc en fait, c'est ce que t'as dit. On est tous des rhinocéros.
Et du coup, ouais, parce que tu sais pas ce que ça va donner là. Il y a quoi? Il y a un an ou deux, ils nous ont dit ouais, en fait, ils utilisent nos données pour savoir qui on est et tout. Ah ouais, surprise. Donc ça va peut-être se transformer en néo-nazisme, méta-nazisme, méta-totalitarisme. J'en sais rien.
Technofascisme.
Technofascisme. Voilà. Non mais on peut effectivement se dire que ça prendra peut-être plus de temps que dans la pièce Rhinocéros ou dans je fais un parallèle avec Martin Brun de l'autre là, Frank Pavlov. Je sais pas si.
Oui.
Voilà. C'est le même principe où d'un coup d'un seul t'as ton chien, s'il est pas brun t'en as plus droit d'en avoir un de chien brun, et puis en fait bon, enfin tu vois, ça peut aller
jusqu'au meilleur des mondes.
Voilà, on sait pas où est-ce qu'on va, et je pense que cette pièce est encore énormément d'actualité. Mais c'est dommage de dire ça, mais je pense qu'elle reste d'actualité à peu près parce que justement, enfin un peu jusqu'à la fin des temps, je sais pas quand ça aura lieu, mais le fait est que Béranger, il est là en train de dire que l'humain c'est important, puis et Jean est là, il veut faire, il veut revenir au truc la nature et tout. Et en fait, le problème c'est que l'humain est fait de telle sorte que au bout d'un moment, il va se transformer en rhinocéros quoi. On a un peu la nature humaine quoi. C'est dommage.
Ce qui est ambigu, c'est la position elle-même de UNESCO, parce que là, on prend le parti effectivement de Béranger, donc on forcément s'identifie à l'humaniste de l'histoire. Mais UNESCO lui-même, avec cette fin qui est quand même très sombre, qui est presque cynique, sa position du coup est ambiguë. On ne sait pas est-ce qu'il se range du côté de Béranger, ou est-ce que c'est une sorte d'aspiration, d'idéal de ce qu'il pense, mais il sait très bien que ça n'arrivera jamais.
Je pense qu'il tend vers une idée que la nature de Béranger l'empêche profondément d'être rhinocéros. Enfin, c'est ça la question qu'il pose, et finalement qu'il fantasme sur la facilité de céder. Il aimerait tellement pouvoir en être un parce que c'est tellement dur de résister. Moi, je l'ai vu comme ça.
Donc c'est le gars aujourd'hui qui a pas Facebook, il se dit j'aimerais bien avoir Facebook, mais en fait je peux pas. C'est un
mais
peu...
c'est une histoire de valeur, c'est-à-dire ce serait tellement plus facile de mener une vie comme tout le monde, à partager sur les réseaux sociaux. Mais le transhumanisme, ça va vraiment au-delà de ça. Ça veut dire s'appareiller, s'habiller par la machine. Enfin, ça va aller très loin, et ça l'est déjà, mais pas dans les je vais pas dire dans le grand public. Mais donc, c'est un peu ça, c'est contre tes valeurs premières, donc tu ne peux pas, même si ce serait beaucoup plus facile.
Alors,
en fait,
je vous rassure, vous avez une émission qui parle des bouquins, donc c'est bon, vous n'êtes pas des rhinocéros. C'est-à-dire que vous avez là, et on a un bouquin sur la table, c'est genre, on a des BD et des livres sur la table, c'est incroyable, c'est même pas des tablettes. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas encore des rhinocéros.
Oui, mais tant que c'est des livres différents.
Ouais, mais c'est un ordinateur, ça va encore, c'est pas... Bon, ça fait 15 ans que ça existe, 20 ans, 30 ans, donc vous n'êtes pas encore... On a encore un espoir, les gars. On va y arriver.
On va y arriver.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. 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 Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Et je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. Il y a même des contrepoints. J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans musique. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. 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 Sachez qu'en ce moment...
Deuxième morceau qui est dit a décidé de nous faire passer pour illustrer la pièce de UNESCO. Et dit, quel est ce morceau?
C'est Hugues Le Bars en fait avec UNESCO. En fait, c'est Hugues Le Bars qui a mis UNESCO en musique. Depuis tout à l'heure, c'est UNESCO qu'on entend se lanciner, se plaindre.
Et je trouvais que c'était marre.
Voilà, c'est ça, j'en ai marre. Et du coup, c'était J'en ai marre, le nom du morceau. Je trouvais que c'était une belle conclusion, puisqu'on entendait du coup UNESCO qui en avait marre qu'on parle de lui.
Il est 20h50, merci. C'est une belle façon de quitter Ionesco. Et on va tout de suite embarquer avec Martin sur les toits de Paris, dans l'appartement de la dessinatrice Louison. On va se plonger dans sa bibliothèque et vous êtes prié d'enlever vos chaussures.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Louison, on est chez vous, vous êtes dessinatrice de presse. On est chez vous donc, c'est comment chez vous ?
C'est très beau et très en bordel chez moi. C'est des anciennes chambres de bonnes réunies, donc c'est sous les toits, c'est plein de petites choses partout à observer. C'est très radiophonique dit comme ça, mais... Et c'est assez parisien, mais un peu comme moi, voilà.
Où est-ce qu'elle est votre bibliothèque ?
Dans le salon, ce qui est très original, qui est la plus grande pièce de l'appartement. Alors c'est des bibliothèques, ça me... C'est du suédois à construire soi-même, ça me déprime toujours quand je les vois, mais pas très très jojo, mais bon.
Et alors dans cette bibliothèque Ikea, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Je sais pas ce qu'on peut dire Ikea. Il y a beaucoup de livres d'art, pas beaucoup d'ailleurs de BD, mais quelques-unes assez choisies, on va dire. Il y a quelques livres politiques, il y a quelques livres genre Le piano pour les nuls, qui ne m'a jamais servi, mais je l'ai. Je sais que si un jour je me mets au piano, il est là.
Quel livre est-ce que vous avez choisi aujourd'hui ?
Un livre qu'on m'a offert à Noël, je précise, pour le côté pas complètement dans l'actu, que j'ai pas eu le temps d'ouvrir du tout à Noël, que je pensais lire au début du mois de janvier. Les événements ont fait que je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire, et que j'ai fini par ouvrir après qu'il ait reçu le prix à Angoulême, donc ce livre, où l'aurait tous reconnu, c'est L'Arabe du futur de Riyad Satouf.
Et alors de quoi est-ce que ça parle rapidement ?
Rapidement, c'est l'enfance de Satouf dans les 6 premières années de sa vie, parce que donc ça va être, j'ai compris ça à la fin du livre, ça va être en plusieurs tomes. J'étais un peu au début, je me suis dit comment il va finir cette histoire en 3 pages ? Il ne la finit pas. C'est sur les 6 premières années pour l'instant de son enfance, entre la Libye, la France et la Syrie.
Je ne sais pas, ça fait écho avec des choses que vous avez vécues, vous peut-être plus jeune.
Bah ça, c'est surtout que ça me, en lisant, j'arrêtais pas de me dire, il faudra un jour, moi j'ai rien à raconter sur mon enfance, elle était extrêmement, il n'y a pas de dictateur, ni de chiot martyrisé, parce que c'est vers la fin, il y a ça. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'écrire plus de façon autobiographique et de me dire que quand même, il y a des choses à raconter, même quand on pense qu'il n'y a rien à raconter. Enfin, bon, lui en l'occurrence, il a beaucoup de choses à raconter, mais c'est vrai que faire tout un livre sur 6 années de petite enfance... J'aurais pouvoir à faire un livre sur 30 années d'enfance, adolescence et autres. Mais et je trouve ça très touchant de voir que derrière le petit rigolo qui fait des dessins de jeunes prépubères et autres, il y a ce petit garçon qui a quand même une enfance assez mouvementée, on va dire. En tout cas, jusqu'en 84. Après, je ne sais pas ce qui se passe.
Donc, L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Apparemment, ça vous a beaucoup plu. Mm-hmm. Merci, Louison.
Merci.
Bouquinerie.
C'est la bouquinerie. 20h53 presque, c'est l'heure pour Yacine de lever sa voix pour nous parler de ceux qui lèvent leur crayon. Yacine, ce soir, tu nous dessines quoi ?
Alors, c'est pas moi qui dessine.
Mais oui, mais un peu quand même.
Ouais. Alors aujourd'hui, En fait, il y a ce bouquin qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Le jour où la vache a éternué, donc d'un dessinateur qui est mort maintenant, qui s'appelait Jim Flora, ou alors quand ses livres pour jeunesse, il les signe sous le nom de James Flora, que je pense qu'il est son vrai nom. Voilà, et donc ça m'a donné envie de parler de lui, parce que je me suis un petit peu rendu compte que ça faisait à peu près 10 ans que je l'avais découvert. Et je vais un petit peu faire une sorte de déviation dans ma chronique pour parler des débuts de l'histoire de la pochette de disque. En fait, en 1938, donc il y a un type qui s'appelle Alex Tenweis, qui était directeur artistique de Columbia. Et il décide que pour vendre plus de disques, on va mettre des images sur les pochettes de disques. Alors à l'époque, c'est des 78 tours. Et c'est notamment, par exemple, des opéras. Bah, pour vendre un opéra, il y a plusieurs 78 tours qui s'enchaînent. Et donc, c'est vendu dans une sorte de pochette. Et sur la pochette, il y a juste une bête typo qui explique ce que c'est, Beethoven ou autre chose. Et il décide que ça serait bien de mettre des images et donc d'associer une image avec une œuvre musicale. Donc ça a été totalement révolutionnaire. Donc ça se passe donc en en 1938 donc aux États-Unis. Et donc Columbia va commencer à vendre des disques comme ça. Et ce même Alex Steinweiss va aussi embaucher cet illustrateur, donc il s'appelle Jim Flora, et qui va produire parmi les pochettes les plus marquantes de l'époque. Et donc c'est un dessinateur qui a un style plutôt naïf, assez simple. Alors chez lui on voit quand même des influences, c'est là où c'est très intéressant, on voit des influences de la peinture moderne de l'époque, des Klee, des Kandinsky, des Miro, des Picasso, donc qu'il incorpore dans un style graphique qui est plutôt naïf, plutôt enfantin. Et il va faire beaucoup beaucoup de pochettes donc en dessin pour illustrer beaucoup de disques de jazz ou de musique classique. Et voilà, ça avait fait un peu partie des débuts de l'histoire de la pochette de disque. Et alors ça m'amène à la redécouverte de Jim Flora, parce que Jim Flora après va être complètement oublié. Et il va être redécouvert début 2000. Et donc un des types qui va aider à le faire reconnaître, c'est un mec qui s'appelle Irving Kuchit, qui est un mélomane, quelqu'un qui est spécialiste de musique. Donc ma théorie, bien que je n'ai pas pu la vérifier, c'est que Irving Cushing a dû tomber sur des pochettes de Jim Flora en cherchant des disques, et il s'est dit, c'est qui ce type, je connais pas. Après il s'est rendu compte sans doute avec d'autres amis en traînant un peu sur le net qu'il y a des gens qui commençaient à collectionner et à s'intéresser à ce dessinateur. C'était aussi le début où beaucoup d'images commençaient à circuler sur le net, où commençait à y avoir les premiers blogs sur le dessin, etc., les premiers sites. Et donc on a beaucoup de dessinateurs ont redécouvert à l'époque cet illustrateur, et c'est un illustrateur qui a eu une influence énorme sur le dessin pendant 10 ans, je dirais.
Et dans voilà. Le jour où la vache a éternué, c'est aussi lui qui écrit l'histoire.
Ouais, alors donc il a été redécouvert donc par ce type Irving Cushing. Il y a eu des bouquins édités sur son travail, et peu à peu, il a de plus en plus été redécouvert, au point où des gens ont s'est dit, il a fait des livres pour enfants, ça serait bien de les rééditer. Ça a fini par arriver en France, et donc là c'est un éditeur qui s'appelle Helium, donc un éditeur de livres pour enfants qui aime bien rééditer des vieux trucs, des bons vieux trucs, on va dire. Et qui s'est lancé sur le travail de Jim Flora, donc James Flora, qui a fait 17 livres jeunesse en tout, et donc ils en ont déjà réédité 3. Et le dernier, celui-là, donc le jour où la vache a éternué, celui-là je trouve qu'il est assez réussi. Donc je l'ai dit, hein, le style de Jim Flora, c'est le côté cartoon. Mais ce qui est intéressant dans son dessin, c'est qu'en même temps c'est très vivant, et en même temps c'est esthétiquement toujours très réussi. C'est-à-dire il y a vraiment une sorte d'équilibre parfait entre l'énergie, quelque chose de vivace. C'est-à-dire quand on lit l'histoire, par exemple,
Puis elles éternuent tellement fort qu'il y en a de l'énergie.
Voilà, alors c'est un truc tout simple, c'est un enchaînement d'événements qui une vache qui éternue, qui fait que il y a un rat qui saute, et puis il y a un chat qui court pour attraper le rat, et ça fait une suite d'enchaînements complètement délirante qui fait qu'à la fin ça fait un truc complètement fou. Et ça c'est très bien rendu par le dessin qui est en même temps simple et simple et beau en même temps. Voilà, c'est une sorte d'équipe qu'on trouve assez rarement dans le dessin, quoi. L'humour fonctionne, mais ça reste toujours très esthétique. Il y a cette énergie, cette communication
parfaite
qui fonctionne. Voilà.
Le jour où la vache a éternué, donc de Jim ou James Flora.
Voilà, donc si ça aussi.
Chez Helium.
Chez Helium, et d'autres livres jeunesse aussi chez Helium. Ça, c'est un bon moyen pour découvrir le travail de ces illustrateurs. Et sinon, sur le net, on tape Jim Flora et on va trouver plein de trucs formidables, notamment ces pochettes de disques qui sont exceptionnelles.
Merci beaucoup, Yacine. Et merci à Eddy, Simon et à Mickaël à la réalisation pour la bouquinerie de ce soir. On a parlé de théâtre avec Ionesco et j'en profite pour vous passer un petit mot de théâtre. Au sujet du théâtre de la Loge, c'est une super salle avec laquelle on organise le festival Brouillage, et elle est menacée d'arrêter son activité. Alors, en répercussion de baisse de subventions. Et nous, on y croit, nous on aime cette salle, et du coup on vous donne rendez-vous sur helloasso.com pour faire un don, parce que la jeune création en a besoin. Tout de suite, c'est le BRTZ Radio Show. Salut.
Salut la bouquinerie.
Salut. Alors qu'est-ce que vous nous mettez dans les oreilles ce soir?
Ce soir, on reçoit Liquid de Liquid et Chip, qui vient donc parler de son album Imbécile heureux.
D'accord, je vois qu'il y a un monde fou là. Ça va.
Voilà, notre invité est déjà là, et puis quasiment toute l'équipe.
Trop cool. Bon, alors bonne émission, et
merci.
Restez à l'écoute.
À dans 15 jours.
À dans 15 jours.